VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 25 août 2022. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Pour commencer, les titres. Au Tchad, reprise hier à N'Djamena après 3 jours de suspension des travaux du dialogue national inclusif et souverain. En Guinée, un forum recommande d'accélérer les procès pour violence politique et d'instituer une commission vérité. Reprise des combats dans le nord de l'Éthiopie après 5 mois de trêve. L'armée américaine dit avoir répliqué à des tirs de roquettes l'ayant visé en Syrie. 6 mois de guerre, jour pour jour en Ukraine, nouvelle frappe russe meurtrière. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, après 3 jours de suspension pour permettre au comité d'organisation de faire un réajustement interne, les travaux du dialogue national inclusif et souverain ont repris hier, dans l'après-midi à N'Djamena. Mais ces assises ont été très vite suspendues alors que les participants s'apprêtaient à évacuer les 2 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'amendement du règlement intérieur et la mise en place du présidium. André Kotmajingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
Juste après la lecture de l'avant-projet de règlement intérieur, la séance a été suspendue pour des raisons techniques. L'audit projet qui déterminera les modalités d'organisation, fonctionnement et déroulement des débats a été finalement remis aux participants dans un kit pour examen avant sa validation. Les ratés constatés à l'ouverture de ces assises et cette suspension brutale confirment l'hypothèse selon laquelle rien n'était prêt pour cette rencontre, a déclaré un participant rencontré au couloir du palais du 15 janvier. Un autre participant exprime déjà son inquiétude quant à la non-participation des groupes rebelles influents et des partis politiques de l'opposition démocratique. Il s'adresse au président du comité d'organisation en ces termes.
Monsieur le Président, est-ce qu'on aura l'espoir de voir ses compatriotes rejoindre le dialogue? Sans cela, je formule la crainte, ma peur, mon inquiétude que nous allons faire un travail à la fin qui ne serait pas très complet.
Une question qui, selon un membre du comité d'organisation, trouvera réponse dans les débats. Les travaux doivent reprendre ce jeudi 25 août avec l'amendement et l'adoption du projet de règlement intérieur suivi de la mise en place d'un présidium de 21 membres. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Tchad toujours, plus de 340 000 personnes ont été affectées depuis fin juin par des inondations dans 11 des 23 provinces du pays, y compris la capitale N'Djamena, selon un bilan provisoire de l'ONU consulté hier par l'AFP. Le 19 août, OCHA avait annoncé que 22 personnes avaient été tuées depuis juin à cause des pluies diluviennes. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a reconnu ne pas pouvoir faire face à cette situation et il a lancé un appel aux donateurs pour une aide plus conséquente. Selon OCHA, l'aide nécessaire s'élève à 6,3 millions de dollars et le gouvernement ne dispose que de 1,1 million. En Guinée, un forum initié par la junte a recommandé hier d'accélérer la tenue des procès pour les violences politiques des dernières décennies et d'instituer une commission vérité. Michel Joseph.
Le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, instigateur de ces rencontres, a promis veiller aux 45 recommandations soumises par les coprésidents du comité des assises lors d'une cérémonie en grande pompe à Conakry. Il avait annoncé le 31 décembre la tenue de ces assises qui ont commencé à siéger en mars et ont remis leurs conclusions hier après avoir recueilli près de 5000 témoignages. Elles ont recommandé la mise en place d'une commission vérité et réconciliation, l'annulation de toutes les condamnations politiques, le jugement de tous les auteurs de violences et violations des droits humains, y compris les membres des forces de sécurité, selon l'archevêque de Conakry, Mgr Vincent, co-président du comité des assises avec l'imam de Conakry, El Hadj Mamadou Saliou Camara. Ces assises ont été boycottées par une bonne part de la société civile et de l'opposition qui disent refuser de servir de caution à ce qu'elles considèrent comme un artifice. Des critiques font valoir aussi qu'une commission de réconciliation s'est déjà penchée, il y a plusieurs années, sur les décennies précédentes et avait formulé des recommandations qui n'ont jamais été suivies d'effet.
Reprise des combats dans le nord de l'Éthiopie hier, rebelles et gouvernement fédéral s'affrontent dans des zones frontalières de la région du Tigré. Les deux camps se rejettent la responsabilité d'avoir brisé une trêve observée depuis 5 mois. Jacques Aristide.
Le secrétaire général de l'ONU se dit profondément choqué et attristé par la reprise des hostilités. Antonio Guterres réclame leur cessation immédiate, de même que la reprise des pourparlers de paix entre le gouvernement et les rebelles. Basé à Addis Abeba, l'Union africaine exhorte à une désescalade. L'UA, qui s'emploie depuis des mois à amener les belligérants à la table des négociations, réaffirme son engagement à travailler avec les partis pour soutenir un processus politique consensuel dans l'intérêt de l'Éthiopie. Hier, les rebelles du Tigré ont accusé l'armée fédérale de mener une offensive à grande échelle contre leur position qu'ils disent défendre. Ne tenant aucun compte des nombreuses offres de paix présentées par le gouvernement éthiopien, les forces tigréennes ont lancé une attaque et ont rompu la trêve, a répondu le gouvernement, appelant la communauté internationale à exercer une forte pression sur les rebelles. Les combats sont les premiers d'ampleur, signalés depuis la trêve conclue en mars dernier. Elle avait notamment permis une reprise graduelle de l'aide humanitaire vers la région plongée dans des conditions proches de la famine.
Le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, Karim Khan, a affirmé mercredi avoir obtenu une promesse de coopération totale de Khartoum dans le dossier du Darfour, vaste région de l'ouest du Soudan où les violences ont fait 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. M. Khan parlait lors d'une conférence de presse après sa rencontre avec le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan au pouvoir depuis le coup d'État d'octobre dernier. Le Darfour a été ravagé par une guerre civile qui a débuté en 2003 entre le régime à majorité arabe d'Omar el-Béchir et les insurgés issus des minorités ethniques dénonçant des discriminations. Pour mater la rébellion, M. Béchir avait envoyé la milice armée des Janjaweed, renversée en 2019, puis emprisonnée. Il reste sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI, tout comme d'autres figures de l'ancien régime pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé hier un effacement partiel des emprunts étudiants, alors que le coût élevé de l'enseignement supérieur fait l'objet d'un débat au sein de l'opinion. Le point avec Abdourahmane Dia.
Conformément à ma promesse de campagne, mon administration annonce son plan visant à accorder un répit aux familles de la classe ouvrière et de la classe moyenne au moment où elles se préparent à reprendre le remboursement des prêts étudiants fédéraux en janvier 2023, a annoncé Joe Biden dans un tweet. La mesure concerne les personnes gagnant moins de 125 000 $ par an. Il s'agira d'effacer 10 000 $ pour les personnes n'ayant pas bénéficié d'une bourse fédérale et de 20 000 $ pour celles aux moyens plus modestes ayant reçu une aide du gouvernement durant leurs études. Les sénateurs démocrates Chuck Schumer et Elizabeth Warren ont salué dans un communiqué commun un pas de géant vers la résolution de la crise de la dette étudiante. La chef du Parti républicain, Rona McDaniel, a au contraire jugé que cette mesure punissait injustement les Américains qui ont économisé pour l'université ou fait un choix de carrière différent. Les universités américaines peuvent faire payer de 10 000 à 70 000 $ l'année et de nombreux étudiants commencent leur vie professionnelle avec de lourdes dettes. Quelques 45 millions d'emprunteurs doivent collectivement 1 600 milliards de $, d'après la Maison-Blanche.
L'armée américaine a annoncé hier avoir répliqué à des tirs de roquettes l'ayant visé dans deux sites du nord-est de la Syrie, détruisant trois véhicules et l'équipement utilisé pour lancer certaines des roquettes. Elle dit avoir tué deux ou trois personnes suspectées d'être des militants soutenus par l'Iran et ayant mené une des attaques. La veille, les États-Unis avaient annoncé avoir bombardé des bases de milices pro-iraniennes dans l'est du pays. L'Iran avait ensuite nier tout lien avec les groupes armés visés par ces frappes aériennes. Six mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une frappe russe a fait mercredi, le jour de la fête nationale ukrainienne, au moins 22 morts et des dizaines de blessés dans une gare ferroviaire, a annoncé le président Volodymyr Zelensky. Pendant ce temps, ici à Washington, le président Joe Biden a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de près de 3 milliards de dollars pour démontrer le soutien durable des États-Unis au moment où le pays entrait dans son septième mois de guerre. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Cameroun, selon un rapport de l'Institut national de la statistique, le niveau des prix à la consommation des ménages a augmenté de plus de 5% au premier semestre. Le principal déterminant de cette poussée inflationniste est l'accélération des prix des produits alimentaires de 8%, précise l'INS. Malgré l'augmentation des prix des produits pétroliers et du fret maritime, le Cameroun maintient inchangés les prix à la pompe grâce à une subvention annuelle de quelque 780 milliards de francs CFA. En Guinée, la compagnie minière russe Norgold a annoncé hier l'inauguration d'une nouvelle centrale électrique de 33 mégawatts à la mine d'or de l'EFA. Cette installation devrait diminuer la consommation de carburant de 15% et d'huile à moteur de 30%, ce qui entraînera une réduction des émissions de gaz à effet de serre. La mine d'or l'EFA, qui a une durée de vie d'une quinzaine d'années, a livré 127 000 onces au cours de ses trois derniers trimestres d'activité.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Des nouvelles de transfert de joueurs pour commencer. Eric Bailly prêté à l'OM.
Oui, le défenseur international ivoirien a été prêté avec option d'achat par Manchester United à l'Olympique de Marseille pour la saison, selon l'annonce faite par les deux clubs. D'après la presse, l'option d'achat s'élèverait à 6 millions d'euros et deviendrait obligatoire en fonction de son nombre d'apparitions et d'une éventuelle qualification de l'OM pour la prochaine Ligue des Champions. Marseille prendra en charge la totalité du salaire du joueur de 28 ans, estimé à près de 5 millions d'euros par an. Arrivé de Villarreal à l'été 2016, Eric Bailly, sélectionné à 46 reprises avec les éléphants, a joué 113 rencontres sous le maillot rouge. 11e recrue de ce mercato pour l'Olympique de Marseille, le défenseur central a débuté sa carrière professionnelle sous les couleurs de l'Espagnol Barcelone avant de rejoindre un autre club de Liga, Villarreal, en 2015.
Un autre Ivoirien, Nicolas Pepe, est proche d'un prêt à Nice.
Ce sont des sources proches du dossier qui l'évoquent, confirmant une information du quotidien L'Équipe. Nice et Arsenal, club de Nicolas Pepe, seraient d'accord pour le prêt d'une saison du joueur de 27 ans sans option d'achat. L'international ivoirien est attendu ce jeudi ou vendredi sur la Côte d'Azur pour finaliser sa session temporaire avec le club niçois. Pepe avait débuté en professionnel à Angers avant de marquer les esprits avec Lille entre 2017 et 2019, puis avait été transféré en août 2019 à Arsenal pour 80 millions d'euros. Il avait signé 5 saisons en faveur du club londonien. Durant 3 saisons chez les Gunners, Pepe a disputé 79 rencontres de Premier League et inscrit 16 buts.
Karim Benzema, favori pour décrocher ce jeudi le titre de meilleur joueur UEFA de l'année.
Eh oui, Benzema époustouflant au Real Madrid jusqu'au sacre en Ligue des Champions. Il devrait monter une première fois sur la scène lors d'une cérémonie à Istanbul pour décrocher le premier grand titre individuel de sa carrière. Finaliste avec son coéquipier Thibaut Courtois et le meneur de jeu de Manchester City, Kevin De Bruyne, Benzema laisse peu d'espoir à ses concurrents tant il a accaparé la lumière cette saison. Avec 44 buts en 46 matchs, l'avant-centre français a porté le Real vers son 35e sacre en championnat et il a été l'un des héros de la Maison Blanche en Ligue des Champions. Cette cérémonie de récompense aura lieu lors du tirage au sort pour la constitution des poules de la Ligue des Champions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idriss Sassé Doudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Angolais ont voté ce mercredi pour les élections législatives qui décideront du prochain président. Le scrutin s'annonce serré entre le MPLA, parti au pouvoir depuis l'indépendance, en perte de vitesse, mais toujours favori, et l'UNITA, le parti d'opposition. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibourg a joint le professeur de sciences politiques et d'études africaines à l'Université de Genève, Didier Péclard.
Effectivement, ces élections s'annoncent très tendues et serrées parce que d'une part, on a un MPLA qui est au pouvoir depuis près d'un demi-siècle tout de même et qui, sur un fond de crise économique assez marquée depuis le milieu des années 2010, se trouve dans une position délicate avec une grande fatigue d'une partie importante de la population et notamment de la jeunesse urbaine, une grande fatigue et une volonté de changement dans un contexte où cette jeunesse ne voit pas de débouchés pour elle, pour son avenir. Donc le MPLA doit faire face à une forte contestation, je dirais, au niveau social. Il est aussi face à un parti d'opposition, le principal parti d'opposition, l'UNITA, qui est l'ancien mouvement rebelle qui a mené la guerre civile jusqu'en 2002, qui s'est profondément transformé depuis la fin de la guerre civile et qui, sous la direction de son nouveau leader, Adalberto Costa Junior, a pris une tournure, je dirais, plus urbaine et il parle, justement, il a réussi à trouver les moyens de parler à cette jeunesse marginalisée. Mais face à cela, le MPLA est une machine politique et électorale très bien huilée. Le MPLA contrôle tous les leviers du pouvoir économique, politique et institutionnel en Angola, même y compris les institutions qui gèrent les élections elles-mêmes, la Commission nationale pour les élections, le tribunal constitutionnel auprès duquel il y aura éventuellement des recours après l'annonce des résultats. Donc ce qui fait que c'est difficile d'imaginer que le MPLA ne puisse pas ressortir d'une façon ou d'une autre vainqueur de ces élections.
Alors, vous le dites, le pays est face à une inflation, beaucoup de chômage, le ras-le-bol est grandissant et pourtant, le pays est riche en ressources naturelles. Pourquoi est-il toujours plongé dans de si grandes difficultés économiques, selon vous ?
Ça, c'est l'immense contradiction de ce pays depuis de très nombreuses années. Effectivement, c'est un des principaux producteurs de pétrole en Afrique subsaharienne. Il y a d'autres richesses minérales qui sont très importantes, notamment dans le secteur des diamants. Mais il y a surtout une très forte concentration du pouvoir politique et une concentration peut-être encore plus forte du pouvoir économique à l'intérieur d'une élite qui représente un pourcentage très faible de la population. Une économie qui est tournée uniquement vers l'extérieur depuis très longtemps et qui est très peu tournée vers le développement de l'agriculture, par exemple, de l'agriculture de subsistance au niveau local ou alors vers le développement d'une industrie. Et ce fait-là, en fait, renforce, si vous voulez, les inégalités entre cette petite minorité qui détient véritablement les moyens de production ou les moyens d'import-export, si vous voulez, et puis la grande majorité de la population qui doit se contenter des miettes, en fait, du gâteau national.
C'était Didier Péclard, auteur du livre « Les incertitudes de la nation en Angola, aux racines sociales de l'UNITA ». Ce mercredi, quelques milliers de Sud-Africains ont manifesté dans plusieurs villes de leur pays à l'appel des deux principales unions syndicales, la SAFTU et la COSATU. Ils protestaient contre l'augmentation du coût de la vie et demandaient que le gouvernement prenne des mesures urgentes. Notre correspondante sur place, Patricia Huon.
Vêtus de rouge, les manifestants marchent dans Pretoria, la capitale sud-africaine. Leur point de rassemblement, Union Buildings, le siège de la présidence, où ils remettront leur mémorandum. Mike Shingange est le vice-président de la Confédération des syndicats sud-africains, la COSATU.
Notre principale demande, c'est qu'ils interviennent sur l'inflation galopante. Ils doivent instaurer un bouclier tarifaire sur le carburant. Ils doivent faire en sorte que les gens aient accès à l'électricité et s'assurer que les emplois existants soient conservés. Ceci n'est que le début d'une action de masse. Et je veux préciser que tout ceci n'est pas uniquement la responsabilité du gouvernement, mais aussi du secteur privé.
L'inflation en Afrique du Sud a atteint un nouveau record le mois dernier, 7,8% sur un an, son plus haut niveau depuis 13 ans. Les prix de l'alimentation, des transports, de l'électricité, tout a augmenté et de nombreux Sud-Africains peinent de plus en plus à s'en sortir, comme Busisi Weduba, une institutrice venue manifester.
Nous sommes contre l'augmentation du prix de l'essence et nous demandons une revalorisation des salaires pour compenser les montants exorbitants que nous payons pour des produits de base, comme l'huile de cuisson, qui ont un impact sur la vie des Sud-Africains ordinaires.
Ils réclament une augmentation du salaire minimum, mais aussi plus d'emplois. Les chiffres du chômage en Afrique du Sud sont effrayants. Malgré une légère baisse au dernier trimestre, près d'un tiers des Sud-Africains en âge de travailler sont sans emploi. Parmi les jeunes de moins de 25 ans, ce sont trois quarts de ceux qui ont quitté l'école qui sont concernés. Buziza Sekaya est activiste des droits humains.
We're sitting with graduates who have degrees.
Il y a des jeunes qui ont des diplômes. On nous dit, va à l'école, obtiens un diplôme, tu auras un bon travail. Mais ce n'est pas la réalité sur le terrain. Et les gens ne sont pas payés suffisamment. Dans un pays où les choses sont si chères, si vous gagnez 3500 rand par mois, c'est à peine assez pour la nourriture. C'est inacceptable.
Si ce mercredi, les syndicats n'ont pas réussi à mobiliser autant qu'ils l'espéraient, la grogne et la précarité sociale sont bien réelles. À Pretoria, Patricia Huron pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la transition énergétique et le débat sur l'exploitation du pétrole et du gaz en Afrique. Lors de la COP26, plusieurs pays occidentaux et des organismes s'étaient engagés à ne plus financer de nouveaux projets d'énergie fossile à l'étranger, tout en encourageant les investissements dans les énergies renouvelables. Des pays africains, grands producteurs de pétrole, s'y opposent. Des environnementalistes craignent une catastrophe climatique si la RDC exploite son pétrole dans la zone de la cuvette centrale. L'Afrique et ses ressources énergétiques face aux défis climatiques, c'est ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Depuis le début de l'invasion russe, le 24 février, plus de 100 000 enfants sont nés en Ukraine. La première chose que la plupart d'entre eux ont vue était le plafond d'un abri anti-bombe. Le premier son qu'ils aient jamais entendu était une sirène signalant un raid aérien. Anna Tchernikova a visité une maternité de Kiev qui a servi d'abri et où les nouveaux parents se lancent dans un nouveau voyage d'espoir. Le récit est de Ginny Nua.
Les plus de 100 000 enfants sont nés en Ukraine depuis le début de la guerre avec la Russie vont former une nouvelle génération dans le contexte d'un conflit qui ne montre aucun signe de répit. Mikita et Artem sont nés au pire moment de l'assaut russe sur Kiev, la capitale. Aujourd'hui, leur maison est toujours menacée, mais ils grandissent et apportent de la joie à leurs parents qui s'adaptent à leur nouveau rôle et à la réalité dans laquelle ils vont devoir élever leur enfant. Cette maternité travaille sans relâche depuis le début de la guerre. Elle est spécialisée dans les soins aux bébés prématurés et son personnel sauve chaque jour la vie de nouveau-nés au milieu des tirs de missiles. Les médecins disent que l'établissement fonctionne à nouveau presque normalement. En février, il a été submergé par les victimes des attaques contre la capitale et ses environs. Darina Spine a passé les derniers jours de sa grossesse et les premiers jours de sa maternité dans cet abri anti-bombe.
Je me suis réveillée le 24 février, peu avant l'explosion. Puis j'ai vu par la fenêtre que les gens fuyaient et que tout le monde envoyait des SMS pour dire que la guerre a commencé. Nous ne pouvions aller nulle part, car je me demandais où irions-nous. Accoucher dans un champ? Non. Nous devions rester à la maison. Je n'ai jamais pensé que je verrais mon enfant pour la première fois dans un abri anti-bombe. Pouvez-vous imaginer cela ?
Une autre mère, Irina Tcherko, raconte son calvaire, mais aussi son bonheur d'avoir un enfant.
Nous avions un sac d'urgence. Il était toujours avec nous. Mon mari était là à garder le centre périnatal, à protéger nos vies, la mienne et celle du bébé.
Les médecins se disent impressionnés par le courage de toutes ces jeunes mères.
Nous devons être fiers de nos femmes. J'admire vraiment leur endurance et la façon dont elles se sont comportées.
Du 24 février au 24 août, jour de l'indépendance de l'Ukraine, cela faisait 6 mois, jour pour jour, depuis le début de l'invasion russe. Ces enfants de la guerre, nés sous les bombardements, vont bientôt apprendre à faire leur premier pas vers un avenir incertain. Mais leurs parents n'ont jamais perdu espoir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, comme il l'avait promis lors de la campagne pour la présidentielle de 2020, le président Joe Biden a annoncé hier un effacement partiel des emprunts étudiants. La mesure va permettre d'effacer entre 10 000 et 20 000 dollars pour les personnes gagnant moins de 125 000 dollars qui s'étaient endettées pour financer leurs études. Le coût des études aux États-Unis peut atteindre des dizaines de milliers de dollars par an. Pour en parler, Abdulrahman Dia a joint à New York Mohamed Modj, professeur d'histoire à Manhattanville College.
Il avait promis, et sous la pression de l'aile progressiste du Parti démocrate et des leaders noirs, mais en même temps aussi l'étendue de cette dette est extraordinaire. Disons que les Américains d'abord empruntent pour acheter des maisons et deuxièmement pour payer leurs études. C'est la deuxième cause d'endettement aux États-Unis.
C'est une question très politique également, n'est-ce pas? Les républicains critiquent la mesure alors que certains démocrates estiment que cette mesure-là ne va pas suffisamment loin. Pourquoi le sujet divise?
Le sujet divise, beaucoup de républicains se fondent un tout petit peu sur les lois du marché, c'est le capitalisme. Et lorsqu'on contracte un prêt, c'est un contrat, on signe. Donc personne ne doit intervenir pour casser ce contrat ou se substituer à l'une des parties contractantes. Donc il y a cette question de principe. La deuxième chose pour laquelle les républicains sont opposés, c'est que les prêteurs qui étaient déjà garantis par l'État américain qu'en cas de difficulté, ils seraient remboursés par l'État américain, ils se substitueraient donc aux étudiants, maintenant sont assurés que ces dettes vont être rachetées et payées par l'État américain. Les gens qui paient les impôts, le citoyen ordinaire, va payer des dettes qu'ils n'ont pas contractées à des banques ou à des institutions qui finalement ne courent aucun risque et dépendent un peu de l'État pour le sortir de la crise.
Pourquoi coûte-t-il cher d'aller à l'université aux États-Unis comparé à d'autres pays développés, par exemple?
La même chose pour la santé. Lorsque vous regardez la santé aux États-Unis coûte très cher, et l'éducation aussi. C'est parce que fondamentalement, il y a cette dépendance sur le privé. Les prestataires de services de santé sont principalement des institutions privées et les prestataires de services dans l'éducation aux États-Unis sont essentiellement des privés. Certes, des privés qui souvent, disons, ne sont pas pour profit. Même les grandes universités ne font pas de bénéfices, mais néanmoins, ça fait donc, ils équilibrent leur budget et une manière d'équilibrer le budget, c'est de faire payer les étudiants. Donc là, c'est un système capitaliste, même s'il est nuancé. Et alors que dans beaucoup de pays européens, en particulier de l'OCDE d'une manière générale, l'éducation ou la santé est fortement subventionnée ou bien mutualisée à l'échelle de la nation, ce qui fait que les coûts sont beaucoup moindres, à qualité égale, donc on paie moins et il y a moins d'intrusion de ce qu'on peut appeler les banques ou les prêteuses dans ces domaines-là.
C'était le professeur Mohamed Modj, joint à New York. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Ronanira Lionel Gahima, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.